tous les services qui accueillent.
On ne va pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc, du coup, je pense véritablement que...
Il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Désormais, nous, un numéro vert, le 8424, est mis en service pour signaler rapidement les incidents liés à la transhumance. Le ministère des Ressources halieutiques animal et de la réglementation de la transhumance a annoncé cette ligne spéciale gratuite sur tous les réseaux mobiles et qui est dédiée aux communautés agropastorales et à tous les citoyens. L'objectif est de promouvoir une gestion apaisée, concertée et réglementée de la transhumance sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit en outre de faciliter l'orientation des usagers, la diffusion d'informations utiles et l'assistance aux populations confrontés aux défis liés à la transhumance. Ainsi, le ministre d'État en charge de la transhumance, Yaak Adamhan, invite la population à faire un usage responsable de ce canal de communication dans un esprit de paix, de civisme et de solidarité. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons en parler dans cette émission. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 31 juillet 2025. Vous comprenez que nous sommes à la fin du mois. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci fraternel à vous tous, alors qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos partenaires ou à nos radios partenaires, Radio Lumière, Anero, Radio La Paix, à Takpame, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM, à Badou. Si vous nous écoutez dans le Bassar, sachez que c'est grâce à Radio Daoul, Sama FM, à Baga, près de Niamtsougou, et puis Radio Courtoisie, dans le grand nord du pays, à Dapaon. Vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.canalfm.com et aussi sur nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes, bien sûr, en studio avec moi. Nous sommes au jeudi. Jeudi, c'est, ça rime bien avec Ambroise Ponzo. Ambroise, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM, ceux qui sont à Lomé et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Bonjour ceux qui nous écoutent depuis la diaspora. Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement et de la direction générale de la CET. Parce que là, ça commence par agacer. La mesure qu'ils avaient annoncée augmentant le prix du kilowattheure, qui entre-temps avait fait le buzz et qui, quelques jours après, a semblé être rapporté d'une certaine mesure est tacitement entré en vigueur et est en train de crucifier les Togolais. Je ne sais pas ce qui se passe chez nous au Togo et on veut à tout prix mettre la corde au cou
où on veut que les Togolais mettent plutôt eux-mêmes la corde à leur propre cou. On est en train d'asphyxier les Togolais économiquement. Actuellement, le pays est pratiquement à terre économiquement. L'argent ne circule pas. Les gens ont de sérieux problèmes de finances. Et les hommes, souvent, n'en parlent pas. Je viens de rencontrer une dame qui me dit que ça ne va pas. Et les hommes commencent par parler de leurs problèmes, de leur situation financière. Les gens ne vendent pas. Et la CVT, la dernière fois, vous avez une facture qui vient souvent pendant sur plus d'une année. Une facture qui vient souvent à 7 000, 9 000. Au pire des cas, c'est 10 000 ou 11 000. Maintenant, le mois de mai, une facture est arrivée. Et ça, c'est chez un cousin à 18 000 francs. Il est en colère, il n'a pas compris. Un autre monsieur que je connais très bien m'a appelé, qui me dit qu'il a acheté un cash power à 19 000 francs, qui devait être à 143, bon, je ne maîtrise pas, mais qui se retrouve avec 137 kWh ou 138, qui devait être à 145 ou 143. Il y a un autre monsieur aussi qui s'est complètement fâché. Lui, il cherche même à en découdre. S'il voit le DGCT actuellement, il serait sur un ring actuellement. Et donc, pour dire que le Togolais n'a rien fait pour payer le lourd tribut de la mauvaise gouvernance chez nous au Togo. Parce que c'est une question de mauvaise gouvernance. On a l'impression même qu'on ne gouverne pas. Que ceux qui sont là dirigent, mais ils ne gouvernent pas. Gouverner, c'est faire en sorte que les conditions de vie des populations sur le plan social, économique et les autres plans sanitaires soient améliorés. Mais tant qu'il n'y a pas ces éléments-là, on ne peut pas dire qu'on gouverne. Les gens souffrent. Vous augmentez pratiquement à plus de 75% le prix du gaz. Les gaz qu'on achetait à 6 500 francs, la bouteille de 12,50, se retrouvent à 10 000 francs, moins 100 francs. Alors qu'au Bénin, alors qu'au Niger, dans les pays dits pays assiégés par les terroristes, le gaz est à 3 000, à 4 000, à 2 000 francs au Burkina. Comment on peut expliquer ça alors que nous sommes au bord de la mer? En dehors de ça,
l'électricité. Oui, au bord de la mer, mais nous produisons
l'électricité.
Du gaz. Oui.
On a plusieurs fournisseurs actuellement. Je ne vais pas citer, pour faire la publicité gratuite à certaines personnes, qui aussi sont dans le coup. Et les Togolais souffrent. Les produits des marchés, les prix des produits de première nécessité sont en constante augmentation. Le pétrole, dont le baril a baissé depuis 2 ans, a descendu jusqu'à 70 dollars, 65 dollars. On n'a jamais connu une baisse chez nous au Togo. Comment peut-on torturer un peuple comme ça? Quand on dirige un peuple, quand on aime un peuple, on fait en sorte que ses conditions de vie soient améliorées.
D'accord.
Mais c'est le contraire que nous voyons.
D'accord.
C'est ma salutation.
Merci beaucoup pour...
Donc le message est envoyé à la CET.
Oui, mais le message...
Et au gouvernement togolais.
Oui, le message est écouté. Et,
de revenir sur cette décision.
Par qui de droit. Oui, en bref, nous attendons justement Magula Kenviteko qui va nous rejoindre incessamment dans cette émission. C'est vrai, je le disais déjà au début alors de cette émission par rapport à mes mots introductifs. Et par rapport à cette question alors de transhumance, et ça a été annoncé que enfin désormais il y a un numéro vert, c'est le 8424 hein, qui est mis en service alors pour signaler rapidement les incidents liés à la transhumance. Et c'est le ministère des ressources halieutiques animales et de la réglementation de la transhumance et qui a mis en place alors ou qui a mis en service alors ce numéro vert. Oui, on sait que la transhumance constitue un grand problème alors dans notre pays, mais au-delà de cela, il faut trouver alors une solution à la transhumance. Est-ce que ce n'est pas un mécanisme pour mieux trouver justement cette solution en question, Ambroise?
Oui, d'abord la question de la transhumance est une question sérieuse et épineuse dans notre pays, au point que certaines situations se sont présentées il y a de cela quelques mois, quelques années, qui ont fait des morts. On parle quand on remonte un peu, on va dans les localités d'Afagna, dans les localités de Abelouvé, dans certaines localités de Montien, il y a eu des morts à cause du comportement des bouviers, à cause du comportement des oui, c'est les peuls, ils sont spécialisés dans ça, c'est eux. Moi, je n'ai rien contre une ethnie qui que ce soit, mais c'est les bouviers, c'est les peuls souvent, qui sont spécialisés dans ça. Et je ne veux pas les accuser gratuitement, mais tout ce qui revient souvent en termes de témoignages, c'est que c'est eux qui trimballent ou qui font balader pour des raisons de pâturage, leurs bœufs dans les champs d'autrui, dans les champs qui sont arrivés au maïs d'épi. Qui est cet agriculteur, ce paysan qui va accepter ça? Et donc partout, et on a comme l'impression qu'ils ont un pouvoir. Des fois, des témoignants vous disent qu'ils disparaissent et ils laissent les bœufs comme ça, brouter. Et quand, c'est, quand ça va chauffer, ils réapparaissent pour pouvoir sortir des sabres pour créer des problèmes, tuer des gens. Ça s'est passé dans la zone Bamono, Afanya, tout ça là. Et donc, moi, je dis que c'est une très bonne chose si le ministre Yark a pris le devant de cette situation qui, malencontreusement, implique et gouvernant, c'est-à-dire, c'est des barons, c'est des ministres. Les bœufs appartiennent à qui? Pas à toi, à moi. Tu as un gros troupeau de bœufs? Moi, je n'en ai pas. Encore moins, le peuple même qui, ou le bouvier qui dirige, c'est pas à lui. C'est entre lui, c'est le dilemme entre lui et le propriétaire du cheptel ou du bétail. Pour dire que c'est ceux-là qui dirigent, c'est à eux appartient les bœufs, au point que quand la situation dégénère, ils sont incapables de résoudre ce problème. Parce que c'est un patron, telle personne qui appelle. Quand, au Togo, quand ça sonne là, ça veut dire que même si tu as raison, c'est toi qui as tort.
Mais s'il y a même un ministère dédié à la transhumance, ça veut dire que le gouvernement veut prendre justement ce problème à cœur.
Ça c'est une bonne chose. On peut pas le nier. C'est une bonne chose. Et ils ont bien fait de choisir quelqu'un qui connaît bien le terrain. Quand on parle de transhumance, c'est très souvent la partie intérieure, c'est-à-dire que l'intérieur du pays. Très souvent. Mais sauf que ces dernières années, on retrouve les bouviers, les bœufs dans les encablures de Adetikopé, à Kato aussi, vous allez retrouver, c'est bizarre, à Niravé, à Sangera,
même à Devego, voilà, Libé, et c'est autre.
Normalement, dans ces milieux-là, qui sont périurbains, les bœufs ne doivent pas s'y retrouver. Et donc, un numéro vert pour faire quoi? Un numéro vert pour signaler les cas d'injustice ou d'abus, soit sur l'un ou l'autre, parce qu'il y a les paysans, il y a les agriculteurs qui se plaignent de la destruction de leurs champs par les bœufs, ou soit, et très souvent, ceux qui ont tort, c'est les bouviers. Parce que moi, j'ai mon champ. Le champ ne se déplace pas. C'est vous qui êtes nomades. C'est vous qui vous déplacez, vous amenez votre bœuf. J'ai une fois dit ici, à ce micro, il y a quelques années, quand il y avait un problème, c'est dans le Nord, ou même le chef de l'État ou le président du Conseil, en son temps président de la République, ils avaient fait empaquer des bœufs dans des... On a dit de construire un grand parc pour les bœufs. Le problème était arrivé là. Il y a eu des morts de bœufs. Il y a eu une histoire comme ça qui s'est passée. Et c'est ça même qui a peut-être amené à ce qu'on a fait un département ministériel carrément pour la question de la transhumance. La question de la transhumance, s'il y a un problème, je crois que le numéro vert dont on parle peut maintenant, on peut appeler. J'espère que ce n'est pas du pipeau, en tout cas avec le général Yark, je ne crois pas que ce soit un pipeau, du pipeau, mais que réellement,
ce numéro-là, 84-24.
Oui, en vrai, il y a des numéros, quand vous appelez, et je parle le numéro Togo, comme tout ça là, vous appelez, on vous trimballe de 8h à 18h. Tu sais pourquoi? Même la CET a commencé. Avec le 82, 28 là, ils ont commencé. Vous appelez, vous vous fatiguez. Mais ils arrivent quand même. Mais au niveau de Togocom, c'est de la mer à boire. Et donc, si vous appelez ce numéro, quelqu'un, un ou deux, personne prend, et on signale qu'il y a d'abus, des cas de destruction quelque part, je crois que promptement, avec le ministre Yak, je crois que ça peut trouver une solution. Parce que c'est délicat. Je l'ai dit au départ, que les bœufs appartiennent à qui? Appartiennent au ministre, au baron, au DG. Pas à Magloire, pas à moi. Mais je crois fondamentalement que le problème peut être réglé si ce numéro-là sonne réellement. C'est une question de fondement aussi, je l'ai dit. Et qu'il y ait un répondant réel et que justice soit véritablement rendue.
D'accord.
Parce que c'est trois choses différentes.
D'accord. Merci, Ambrès. Nous sommes rejoints par Magloire Kevitko. Magloire, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrère Ambroise, bonjour à nos chers amis derrière la baie vitrée.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, nous sommes encore debout. C'est pour ça que vous nous voyez dans ce studio.
Tout à fait. Nous remercions le ciel pour cela. Et c'est vrai, nous sommes en train de parler alors de la question de transhumance. On sait que c'est un problème délicat dans notre pays. Et quand on voit aujourd'hui où le ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance et qui annonce un numéro vert. Et déjà, ce numéro vert est en service. C'est le 84-24. On pourrait dire quand même que c'est une bonne volonté quand même de régler le problème de la transhumance.
Non, je crois quand même que c'est un sujet d'actualité et le problème, je crois que il est déjà là sur le tapis. Beaucoup en parlent, la presse en a suffisamment parlé. Je crois que c'est ce qui a amené déjà l'autorité à entreprendre il y a quelques semaines une tournée nationale à travers le pays où le ministre Yac a sensibilisé les différentes couches de nos sociétés à savoir comment s'y prendre lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de traiter avec les nos amis Bouvier. Alors, je crois que le numéro vert tel que le communiqué le stipule vient apporter un plus, n'est-ce pas, à la dynamique institutionnel déjà enclenché, comme je le disais tantôt, à travers la tournée nationale qu'avait entreprise le ministre. Et là, il faut, comme le message était clair à l'époque, il faut que chacun joue pleinement sa partition. Je crois que, d'une part, il y a des populations autochtones qui sont essentiellement agricoles, qui font leur champ et qui ne sont pas aussi prêts à accepter facilement que des bouviers arrivent comme ça et que dans un laps de temps, on voit leur champ partir comme ça, entre griffes en fumée. Et au même moment, il faut chercher aussi les voies et moyens pour sensibiliser tant soit peu nos amis transhumants pour leur faire comprendre que vous ne pouvez pas vous inviter sur un territoire comme ça et agir en conquérant. Et c'est généralement ce qui découle ou ce qui déclenche, n'est-ce pas,
le conflit.
Le conflit, la cohabitation difficile entre les différents partis. Et je crois fort que le message qu'avait passé le ministre entre-temps était passé et que le numéro vert vient justement en appui à cela. Et malheureusement, ces derniers jours, on attend encore qu'il y a de ces soubresauts dans certains coins recoins du pays, mais ça voudra dire que c'est un combat de longue haleine. On ne finira jamais de résoudre cela, mais encore faudrait-il qu'il faut toujours continuer par sensibiliser, par accentuer les démarches qu'il faut jusqu'à ce que chacun comprenne que pour qu'on ait la cohésion sociale, la quiétude dans notre société, il faudrait que chacun fasse pleinement sa part. Et je crois que au niveau du gouvernement, l'État essaie de faire de son mieux. Il faut maintenant que les uns et les autres jouent pleinement leur partition. Et le numéro vert, il vient et il nous revient, vous et moi, n'est-ce pas, d'en faire bon usage pour remonter les informations en temps réel à qui de droit pour qu'on puisse agir en temps opportun également. Mais comme Ambroise l'a dit, on a déjà vu des cas pareils dans le pays où on met en place des numéros verts, mais qui ne fonctionne jamais, c'est-à-dire que vous sonnez les numéros. On n'a pas de répondant. Et si tel est le cas, à quoi ça sert de les mettre en place? Il faut, comme je l'ai dit, que chacun joue pleinement sa partition. Le numéro, il est là. Les citoyens vont essayer, n'est-ce pas, d'appeler. Mais il faut que quelqu'un, celui-là, qu'on place là-bas et que l'État entretient par les frais, n'est-ce pas, du contribuable togolais, puisse jouer également sa partition. Et c'est en cela qu'on arrivera à créer une sorte de chaîne dans laquelle chaque maillon est essentiel et joue pleinement son rôle.
Ambroise, est-ce que vous avez l'impression que jusqu'à présent, depuis que le ministre Yac a été nommé à ce poste, est-ce que les lignes ont bougé par rapport surtout à cette question de transhumance?
Oh, les lignes ont bougé, je ne sais pas. Je ne saurais le dire, d'autant plus que je n'ai jamais été convoyé sur le terrain avec lui pour savoir si réellement dans les localités du nord, que ce soit Natigou, Namoujoga, Namoubaga, Natitipi, Nadoba, tout ça là, et en descendant vers Ngontien, Takpamé, jusque dans la préfecture du Zio, En tout cas, il n'y a pas encore de drame signalé pour le moment. Il y a quelques semaines, cette dernière semaine, ce qui pourrait peut-être signifier qu'il y a eu une certaine accalmie de par sa gestion. Maintenant, dans ce domaine, on parle de corruption, on parle de conflit d'intérêts, je ne sais quel type de forme ces gens de fléaux sont en train de... Quelle forme prennent-ils ces gens de fléaux? Mais si tel que, parce que certes, c'est des confrères qui le disent, hein, si tel est le cas qu'il y a des conflits d'intérêts, on ne peut jamais l'écarter. D'autant plus que le bœuf, je l'ai dit, n'appartient pas à tout le monde, à monsieur tout le monde. Et en plus, les conflits d'intérêts, c'est que, je l'ai déjà évoqué, un ministre à qui appartient un troupeau de bœufs, qui va détruire le champ de quelqu'un, le ministre ne peut pas être jugé parti. Si le ministre, il y a quand même un des bœufs qui est allé détruire le champ de quelqu'un, un grand champ de quelqu'un, et qu'on l'informe, est-ce que vous êtes sûr que le ministre Yac lui-même peut tuer ce bœuf, ou bien peut, au pire des cas, il peut remplacer le bouvier? Parce qu'en homme qu'on connaît, en termes de justice, il peut, pour calmer la situation, chasser ou débarquer le bouvier, le remplacer par un autre, et intimer l'ordre à ce que les bœufs ne passent pas par ce couloir-là, parce qu'il y a un corridor. Et la troisième, c'est une question transnationale. Ce n'est pas seulement une question du Togo. Il y a des bœufs qui quittent le Nigeria, qui arrivent là jusqu'au Ghana. Il y a des bœufs qui quittent le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui peuvent arriver, ne serait-ce que trouver un pâturage. Et c'est comme ça, même ils ont fabriqué le truc là, que moi je n'ai pas compris. Moi j'ai déjà participé à deux rencontres sur la transhumance Sakara, et je me dis que le Togo s'essaie toujours, le Togo essaie aussi de régler le problème, mais le conflit d'intérêts est tellement pesant. Le conflit d'intérêts dont je parle là est tellement pesant, parce que le ministre ne peut pas appeler, peut-être appeler un de ses collègues dont les bœufs sont en train de détruire quelque part. Mais on ne va pas gérer comme si c'est toi et moi qui avions du bœuf. Peut-être nous aussi, on se dit qu'on est des journalistes, on est influents peut-être, et qu'on va essayer de régler le problème. Mais il y a d'autres personnes à qui ce bœuf-là peut appartenir, et qu'on ne peut pas régler comme on peut régler le problème si le bœuf appartenait à un ministre. C'est là où se trouve le problème de conflit d'intérêts. Maintenant, la corruption, ça, j'en sais pas trop. Tout cela est mêlé. Mais aujourd'hui, moi, j'estime et je crois fondamentalement que avec la nouvelle donne, on peut espérer du mieux quant à ce qu'on appelle la paix sociale dans les localités. Mais j'ai déjà donné la solution. Peut-être on va me dire que mais vous voulez le bœuf, ceux qui élèvent des caprins, des porcins, tout ça là, on en fait un enclos.
Et un
tant que les communautés ou les municipalités, la préfecture ne veut pas laisser les porcins ou les porcs de quelqu'un circuler dans la ville, de la même manière les chèvres et les boucs, il ne faut pas que les bœufs aussi circulent. Ceux qui ont de l'argent, c'est ceux-là, les pontes qui ont de l'argent, construisent un grand enclos pour les bœufs, aller chercher du pâturage pour ces bœufs-là. C'est simple. On me dira que c'est difficile. Non. Le problème, c'est eux. Le problème, c'est les propriétaires de bœufs et les bouviers. Pas ceux qui ont leur terre, qui cultivent calmement et tranquillement leur terre dans la sérénité, ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est ceux à qui appartiennent les bœufs et ceux qui conduisent les bœufs, d'accord, les bouviers.
D'accord. Oui, Mabla, c'est vrai que Ambroise a parlé alors de cette question de conflit d'intérêts, et c'est vrai, quand on fouille, bien sûr, on voit qu'il y a des autorités quand même qui ont de ces animaux, de ces bœufs, et qui circulent. Mais finalement, est-ce que ça ne renforce pas le problème?
En réalité, il n'a pas tout faux quand Ambroise disait que ces bœufs généralement n'appartiennent pas à monsieur tout le monde. Et c'est là où il y a un peu cet aspect un peu complexe du problème. Parce qu'on peut le caricaturer comme si vous êtes à la fois joueur et arbitre. Et ça devient compliqué, voyez-vous. Et généralement dans ce pays, lorsque vous voyez des grands domaines dans les milieux un peu ruraux, mais on vous dira que ça appartient à telle ponte, à telle autorité, à tel ministre, à tel directeur de société. C'est comme cela que ça se passe. parce que vous et moi, on n'a pas les moyens pour s'acheter de vastes domaines. Et c'est comme cela, justement, que ce phénomène se développe. Maintenant, ça, c'est un fait. On peut être une autorité et disposer d'un domaine sur lequel on fait de l'élevage. Ça, c'est pas un délit. Maintenant, comment faire, justement, pour réguler, n'est-ce pas, cette activité? C'est tout le problème. Et c'est pour ça, je crois, justement, que le ministre Yaak me semble aujourd'hui l'homme le mieux placé pour mener ce combat.
C'est la personne indiquée.
La personne indiquée, parce que je crois que lui-même étant originaire de la région des savanes, et c'est l'activité, on va dire même principale de la zone. Il s'y connaît, et dans de pareilles circonstances, comment on s'y adonne pour essayer, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustrés d'un côté pour que ça dégénère sur la cohabitation des populations. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est l'homme de la situation et avec assez d'expérience qu'il a en matière de sécurité, de protection civile dans le pays, il pourra le faire. Même si, moi je me dis, même si lui, aujourd'hui, lui-même, il arrive qu'il est... enfin, propriétaire d'un troupeau, c'est une raison de plus, c'est une motivation de plus pour lui d'agir de toute son énergie pour pouvoir trouver une solution pérenne.
Parce que c'est un terrain qu'il connaît très bien.
C'est ce que je dis. Et donc, c'est en cela qu'il arrivera à dégonfler peut-être ceux qui pensent que ben, peut-être il est dans le système, c'est pourquoi il n'arrive pas à agir comme cela se doit. Et donc, si d'aventure, comme je l'ai dit, il est un acteur, pour moi, ce n'est pas une faiblesse, mais ça doit être beaucoup plus un élément motivateur, déclencheur même de toute son ingéniosité pour pouvoir mettre en place des mécanismes idoines, puisque se connaissant dans le domaine, pour pouvoir contrecarrer beaucoup plus le caractère nocif ou l'aspect nocif, n'est-ce pas, du phénomène.
D'accord. En vrai, c'est vrai, en citant des localités maintenant, vous avez cité Afagna dans le Bas-Mono, vous savez que le nom de cette localité a été cité dans cette semaine plusieurs fois, et notamment avec le village ou le canton de Petou, où cette question d'intoxication alimentaire a eu lieu, et le journal Le Changement revient sur le sujet ce matin. Le journal écrit 92 cas de diarrhée, dont 73 guéris et 29 encore sous surveillance médicale, une intoxication alimentaire à Petou qui consacre l'ampleur de la faim au Togo. Et quand on prend la situation comme telle, déjà le journal nous donne d'abord un bilan de ce qui se passe. Hier, nous étions même en contact avec ou en direct dans cette émission avec notre confrère Jean-Marie Gonsalves de Radio Mopokpo qui nous a fait présenter aussi la situation. Mais Ambrose, comment vous avez analysé justement cette situation?
J'ai suivi avec intérêt la situation sanitaire de ce milieu. Vous savez, la pauvreté aussi, la faim aussi peut passer par là des fois. Hein. C'est vrai qu'on a un goût particulier à certaines spécialités de mets, humblis dont on parle. Moi, j'ai toujours dit que vous voulez manger humblis. C'est vous-même qui avez tué l'animal. Moi aussi, j'en ai déjà mangé. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah qui m'en excuse. Mais je me dis que moi-même, au temps du vieux, quand des fois, c'est vieux, hein, on fait du... On immole nous-mêmes ou on tue un animal, on fait du humblis avec les adomenous. Et tout ça là, c'est très bon. Et maintenant, humbly, qui est devenu un mets commercialisé, ça je n'ai jamais appris. C'est la première fois que j'en prends ça, parce que humbly là, c'est le sang. Et le sang, c'est comme le lait. C'est un produit sensible, extrêmement sensible. Et le sang d'un animal qu'on mange, c'est pas un truc anodin. Et que tout le monde vienne manger sans être protégé. On a toujours dit que le lait est l'animal, est le produit animal le plus sensible au monde. On le dit souvent. Moi, je dis au même titre que le sang aussi. Parce que le sang, c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous savez, il arrive des fois, on peut prendre le sang d'un animal pour injecter à l'homme. Je crois que c'est... On parle du ventre du porc où il y a certaines parties du corps d'un animal peut servir à l'homme, que ce soit le foie et tout ça là, ou le rein.
Ça peut servir du greffage. Servir,
voilà, par exemple, on parle souvent du porc et tout ça là. Et donc, ce qui s'est passé dans la localité là, j'ai aussi suivi des gens qui disent que la dame a l'habitude de préparer ces choses là. Les gens viennent manger souvent à partir de 20 heures. Maintenant, que c'est 18 heures. Ils ont commencé cette fois-ci à 18h et la dame entre-temps avait quitté
son étalage
pour revenir. Et donc la thèse de, il y a la thèse de l'empoisonnement dont on parle, il y a aussi la thèse de l'accident, parce que il peut y avoir aussi des accidents où l'animal qui a été tué et comportait avait des problèmes d'affection ou d'infection. Et mais que les gens avaient déjà consommé le produit là déjà entre 18h et 20h et personne n'a été malade. C'est après 20h que l'hécatombe va commencer. Les gens ont mangé, et pas des moindres, ils sont nombreux. On parle de 30 personnes qui ont été hospitalisées. Il y a 4 morts selon le bilan. Je sais pas le dernier bilan, on en est où, mais d'abord il faut féliciter le ministère de la Santé qui a été urgent. Bon, on ne m'a pas encore signalé de faille du côté du ministère de la Santé, mais il faut quand même encourager ces gens de... Et c'est des gens d'initiative qui ne demandent pas à ce que ceux qui sont victimes puissent sortir de l'argent, non. Ça, c'est une question de santé publique. Et ça, c'est l'intérêt général. Et ça, c'est le service public qui intervient.
Et semble que la prise en charge est gratuite.
Oui, ça, c'est la gratuité du service public dans certains domaines, notamment sanitaires. Ça, on m'a donné que le principe là soit appliqué.
Surtout dans ce cas.
Oui, c'est ce que je dis, c'est ce qui a été appliqué. Parce que ça devient un cas extrême. Maintenant, est-ce que la dame, elle est coupable ou elle n'est pas coupable? Certaines théories ou certains témoignages estiment qu'il peut y avoir de la jalousie. Oui, parce que le cas des poissons qui ont été tués dans le bassin de Atikoumé ici, on en a parlé. Et la situation économique et financière des uns et des autres dans ce pays fait en sorte que on a plus d'envieux, les gens, je parle d'envieux, des gens, des jaloux dans ce pays. Pourquoi c'est elle toujours, regarde comment les gens sont nombreux là-bas, parce qu'il y a tellement de cas. Quand on te dit, tu vas croire la thèse là qu'effectivement il peut y avoir une situation de jalousie dans ça là, parce que vous allez voir quelqu'un qui vend à Kassa, la manière dont elle a souffert pour que les gens ait compris qu'il y a quelqu'un qui vend, ou quelqu'un qui vend à Kassa là-bas, pour que ça prenne. Et que, à partir de 1, 2, 3 personnes tous les jours, on est revenu à 15, à 20 personnes tous les jours. Et donc, l'attelage a augmenté, les gens viennent, et vous allez voir, ça ne va pas durer. Vous allez voir un jaloux, une jalouse, qui viendra installer le même produit, juste à 10 mètres à côté. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. J'en ai vu. Tous les semaines même.
Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont trois? Est-ce qu'on...
Non, nous ne sommes pas au marché. On n'est pas dans un marché. Quand vous allez au marché d'Alewato, vous allez voir les gens qui vendent des tomates. Là, c'est réglementé. Ils sont dans le même signe, dans le même camp. Vous venez, vous voulez acheter des tomates. Vous venez même, vous avez de l'embarras. Et au moment, venez acheter, tout le monde crie. Mais ton instinct te dirige vers quelqu'un. C'est à lui cet argent-là. Les gens ne comprennent pas ça. Ça, c'est un. Vous allez au niveau de ceux-là ou celles qui vendent des oignons. Comment on comprend ici? Mais chacun vend. Maintenant, quand la personne choisit de rester au bord de la route ou dans le marché quelque part où il y a pas ce produit là n'est pas en nombre, où il y a pas deux ou trois personnes qui le font, comprenez qu'il y a une question de jalousie. Parce que nous sommes dans un village, hein, pas le messie, le message se passe. Imaginez ce qui va se passer dans la ville. Il peut y avoir même des sorciers qui interviennent dans ce dossier là et où on met quelque chose à la place où elle vend. Comme ça se passe souvent dans les marchés. Une dame est décédée comme ça. Parce que c'est la jalousie. Jusqu'à quand l'Africain va quitter ça? Je ne suis pas en train de soutenir la thèse là comme étant une thèse définitive en termes de conclusion sur ce qui se passe à Kessou.
Pas les résultats, justement.
Sur ce qui se passe à Kessou. Mais je dis que la thèse de la jalousie, de l'envie, là, le temps jusque la dame quitte pour aller revenir, quelqu'un peut suer, quelqu'un peut mettre un produit dedans. Parce que ça ne s'est jamais produit, ça ne s'est jamais, ça n'est jamais arrivé à la dame. Et la dame, tu sais, des fois, on n'est pas tout le temps vigilant. Dieu nous a dit, il faut être vigilant. Il arrive des fois, on peut ignorer l'aspect vigilance ou la prudence. Mais ça arrive. Des fois, ça arrive pour que l'homme puisse prendre conscience que ta vie ou la vie des autres est très importante. Et donc, aujourd'hui, moi, la piste qui est plausible, on dit que la dame a fui, que certains disent que la dame est introuvable.
Oh, pour le moment, elle est en garde à vue.
Elle est en garde à vue. Moi, sincèrement, c'est vrai que quand même vous conduisez un véhicule ou une moto, vous tamponnez quelqu'un qui est décédé, on doit vous garder en vue pour vous protéger vous-même. Il y a certains qui il y en a qui ne maîtrisent pas cette règle-là. La police vous garde, c'est pour d'abord vous protéger vous-même.
Tout à fait.
Au risque d'être lynché. Si vous, par mes gardes, par ma chance, vous tamponnez quelqu'un, vous-même vous devez aller à la police, le signaler. Parce que ça fait partie de la règle humaine et de la règle de sécurité. Vous protégez vous-même et vous signalez ce que vous avez fait en termes d'infraction. Une infraction. Ça, vous déclarez. La peine qui vous sera alourdie sera allégée parce que la personne même s'est présentée. Il y a une circonstance atténuante.
Comme quoi, une faute avouée
est à moitié pardonnée. Maintenant, je vais finir. Maintenant, dans le cas de la dame, moi, je ne veux pas tirer une conclusion, mais je me dis qu'une dame qu'on a qualifiée, qui est là depuis, qui vend, et qui gagne de l'argent, ne peut pas volontairement faire quoi que ce soit pour que ses clients en pâtissent. C'est quelqu'un d'envieux, de jaloux, qui serait venu, ou de jalouse, qui serait sûrement venu. Et donc, que les autorités soient clémentes. Parce qu'elles vendent ça depuis, les gens ont témoigné. Moi, j'ai subi sur plusieurs radios, Victoire FM, tout ça là. Les gens ont témoigné.
Mais ici, mais également.
Voilà, j'ai suivi le confrère.
Oui, voilà.
Le confrère, oui.
Il y a de cela 2 ans qu'elle vend, surtout dans ce marché de Pétou.
Depuis. Et les gens viennent acheter.
Oui, voilà. Un marché
qui c'est un repas qui est bon. Les gens mangent, les gens accourent.
Oui, voilà, bien sûr. Alors, Magloire, c'est vrai que dans cette question d'intoxication alimentaire, il y a le ministère quand même qui a réagi promptement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une prise en charge également lors des patients. Là, et quand même, c'est à saluer.
Non, c'est à saluer. Et c'est justement ce pourquoi ce ministère est là, n'est-ce pas? Parce qu'il est question de la santé publique, parce qu'il est question de la vie des Togolais. Et comme je le dis généralement, lorsqu'un Togolais est en difficulté, il revient à l'État togolais. Même si l'intéressé était en faute, il revient à l'État togolais d'abord d'intervenir, jouer au protecteur. Après, on va statuer sur sa culpabilité ou non par rapport au fait qu'on lui aurait reproché quelque part, tant sur le territoire national qu'ailleurs. Maintenant, pour ce qui est justement... C'est vrai, il faut saluer, hein, il faut saluer la promptitude dans la réaction du gouvernement. Et comme je l'ai dit, c'est dans l'ordre normal des choses. Et il faut continuer toujours pas agir comme cela. Il faut que l'État, la présence de l'État soit effective et que ça se sente véritablement. Lorsqu'il intervient des situations pareilles, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque des situations malencontreuses comme des incendies se produisent, vous voyez comment les populations récriminent parfois par rapport à la lenteur dans l'intervention des sapeurs-pompiers. Ça voudra dire quelque part, ce n'est pas normal. Et donc, quand ça se produit, c'est des phénomènes naturels. Parfois, ça peut provenir comme ça, des faits accidentels. Mais la réalité, c'est que quand ça intervient, il faut que les services compétents puissent réagir également à temps. Et donc, c'est en cela que je salue justement l'intervention rapide du ministère de la Santé dans ce dossier. Maintenant, pour ce qui est des causes, franchement, je crois que les enquêtes sont ouvertes.
Oui.
Et on attend tous que les résultats soient révélés au grand public pour qu'on puisse tirer leçon de ce qui s'est réellement passé. Maintenant, pour nous autres, on va peut-être s'inscrire dans les dynamiques des suppositions, d'hypothèses. Et allons-y, Ambroise a parlé tantôt du cas des envieux des sorciers. Ça peut être vrai, mais moi j'estime que...
Est-ce que nous sommes en Afrique?
Nous sommes en Afrique et c'est vrai. Mais également, il faut également voir un autre aspect de la chose. C'est qu'on parle d'un village. Et généralement, ces repas, souvent, les revendeurs se prennent la nuit. on prépare ces aliments souvent la nuit. Le lendemain, on réchauffe un peu et puis direction marché.
Eh bien, le marché même s'anime dans la nuit.
Voilà.
C'est un marché de nuit.
Donc, c'est un marché de nuit.
On prépare.
Voilà. Donc, ça voudrait dire que quelque part, il peut y advenir une situation un peu imprévue, malencontreuse. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Souvent, les villages, c'est vrai que nous sommes dans un monde moderne, mais très souvent dans les villages, c'est les lampions qu'on utilise. Et quand c'est les lampions, on ne regarde pas trop bien tout ce qu'il y a autour. Il y a des petits insectes très dangereux qui sont là et qui peuvent tomber dans la nourriture qu'on prépare sans que la revendeuse ne se rende compte véritablement, ou la bonne dame.
Et donc, mais si c'est ainsi, c'est vrai, c'est pour cette thèse-là, Magla, puisque elle-même dit aussi avoir consommé cet aliment. Et ceux qui l'ont consommé avant 20 heures n'ont pas eu alors ce malaise. Et c'est là aussi un peu le paradoxe.
Oui, c'est là le paradoxe, mais la réalité, c'est quoi? Chacun a son organisme. Il y a eu coronavirus dans ce même pays, même si on estime que l'Africain peut se réjouir d'avoir un organisme très costaud qui a su résister vraiment à cette maladie par rapport à la vague qu'elle a fait dans le monde occidental, mais également dans ce même pays, dans ce même continent Afrique, il y a eu des gens qui ont trépassé par rapport à la maladie. Et donc tout dépend de la réactivité, n'est-ce pas, de chaque corps humain. La dame en question, la bonne dame, peut manger ça elle-même. D'autres clients peuvent également manger, mais ne manifester aucun malaise par rapport à d'autres qui ont trépassé. Et donc, c'est pour ça que je dis, au-delà de tout, ça voudra dire que si la dame a mangé, elle est là en vie, d'autres ont mangé, ils sont là en vie, et que d'autres meurent, c'est qu'il y a un problème. Il faut chercher où est-ce que le problème se situe. C'est pour ça que je dis, il y a une enquête qui est là officiellement, mais avant, nous, on est un peu dans un exercice d'hypothèse, de supposition.
Tout à fait.
C'est pour cela que j'ai dit, il n'y a aucune piste qui doit être négligée. Quand on sait que dans nos milieux également, il y a de ces insectes très nocifs qui circulent et tout ça, et qui peuvent tomber dans n'importe quelle nourriture qu'on prépare, et qu'on a l'éclairage que grâce aux lampions, tout peut arriver. Mais c'est quand même malheureux ce qui s'est passé. Parce que la nourriture en question, il n'y a pas que à Pechou, dans la région d'Afanyan, que ça se mange. Mais chez mes oncles à Palimé, ça se fait également. À des occasions un peu festives, on le fait. Mais je n'ai jamais appris que quelqu'un en est décédé de cette consommation. C'est pour ça que je dis que ce cas doit être un cas assez exceptionnel. Et quand on nous dit que le marché s'anime la nuit, ça voudra dire que dans la nuit, on dit forcément tous les champs sont gris. Tu peux avoir une aptitude à réagir en pleine journée qui ne peut pas être la même la nuit. Donc,
d'accord.
Il y a un cas typique. L'enquête est en cours, mais je crois que peut-être il faut redoubler d'ardeur, de vigilance, généralement dans ces genres de
situations. Merci beaucoup, Magla. Ambos, on va parler éducation maintenant. Il y a éducation et le journal Les Vainqueurs a écrit insertion sociale, l'école primaire au cœur de l'action gouvernementale. Et c'est la Nouvelle Tribune qui continue également et qui nous annonce et le journal écrit rentrée scolaire 2025-2026, 30 nouveaux CEG verront le jour. Et donc, quand on prend l'année scolaire, les années scolaires souvent, on constate tout simplement que au-delà même d'ailleurs de ces années scolaires, ou du moins ça l'approche à l'heure de ces années scolaires, on constate souvent qu'il y a des réformes. Mais est-ce que finalement, pour ce qui concerne cette annonce que le journal La Nouvelle Tribune nous fait, concernant 30 CEG qui seront construits ou qui verront le jour pour cette nouvelle année, finalement, on pourra dire que c'est une bonne chose, c'est la réforme. Un scolaire quand même qui continue ainsi.
Oui, la réforme continue et avec c'est bien fait. Oui, je peux dire c'est bien fait parce que personne aujourd'hui ne peut dire que ce que le ministre Kokoroko a enclenché depuis qu'il est arrivé, je crois il y a 4 ou 5 ans, n'est pas bonne ou n'est pas n'est pas dans l'avantage et des parents et des enfants eux-mêmes, et pourquoi pas du personnel enseignant. Je crois que hier on était dans un débat sur une plateforme. Certains se disent comment si on envoie des cahiers depuis le Bénin, le parent au Bénin ou au Ghana, on envoie un cahier, est-ce que l'enfant ne va pas utiliser le cahier jaune? Juste l'exemple des fournitures.
Des fournitures, voilà. Puisqu'il y a la liste des fournitures que le ministre a publié tout récemment.
L'un de moi de défendre le ministère ou tout ça, moi j'ai dit que le Togo a perdu des valeurs. Surtout, d'abord sur la citoyenneté, les valeurs de la République. Même si on parle de République au Togo, il faut toujours prendre toutes ces choses-là avec des gants. Il faut quand même que nos enfants puissent s'imprégner de ces valeurs-là qui sont très liées aux emblèmes de la République, aux armoiries de la République. Parce que pour nous autres, c'est des éléments très importants qui enclenchent le patriotisme, l'amour pour sa patrie, donc la citoyenneté retrouvée. Et donc, si on canalise le débat sur le respect des valeurs, l'amour pour sa patrie, le patriotisme, comme on le voit actuellement au Burkina Faso, on le sent dans certains pays, je crois que c'est à partir de l'éducation et de l'enseignement, depuis le primaire jusqu'au collège, voire le lycée, que ces valeurs-là peuvent être inculquées, peuvent être assimilées par ceux-là que j'appelle aujourd'hui des vecteurs d'information, les enfants. L'hymne national, le drapeau national. L'hymne-là n'était pas celui ou l'air ou celle qu'on chantait par le passé. L'hymne-là nous a rattrapés, je crois, dans les années 80. Nous, on l'avait chanté avant de le retrouver. Et l'hymne a tellement des éléments de langage qui parle du patriotisme, qui parle de la lutte de nos ancêtres, qui parle de d'où nous venons et où nous allons. Et donc, nos enfants doivent maîtriser ça. Les emblèmes, le drapeau, la signification des couleurs qui se retrouvent dans le drapeau, même manière dont on a fait les bandes, les enfants doivent maîtriser ça. Et si ils apprennent ça à la volée, comme on apprend une leçon, ils quittent, je crois que c'est une bonne chose. Mais il y en a qui ne vont pas rester dans la tête des enfants. Mais quand on a un cahier dans lequel tout cela a été inscrit, tous les cahiers, tu prends ce cahier-là, tu es obligé de voir ça, la couverture. Même la première page, quand tu ouvres, tu vois l'hymne. À la couverture, tu vois déjà le drapeau. Tu vois certaines choses. Même les bâtiments, les couleurs que doivent prendre les bâtiments scolaires.
Ça crée une fierté nationale.
Oui. Les couleurs sont uniformes. Pas les histoires de bleu, blanc, unis, là qu'on voit, hein. Non, moi je suis contre ça. Ces histoires de bleu-blanc là, bleu-blanc qu'on voit partout là, avec des zélés qui sont là, en fait, moi je suis contre ça. On ne peut pas être dans une république comme ça. Une république à double dimension, non. Non, ça ce n'est, cette valeur là, ça là, c'est contre les valeurs. Ceux qui font ça là, dites-leur de cesser ça, d'arrêter ça. Parce que, moi la dernière fois j'étais à Ségué, ils étaient en train de faire un truc là, et les gens sont arrivés. Il y a deux messieurs qui étaient là, et ils sont là pour boire ou faire quelque chose. Et je suis devant eux, ils disaient derrière moi, comment les bâtiments se sont différenciés comme ça? Il y a le bleu, comment c'est katakoto comme ça? Et je les ai regardés, moi je suis parti. Même chose à Madaromé, dans le primaire. Vous allez voir une dichotomie. Donc pour dire que ça a déjà, quand on veut inculquer les valeurs aux enfants, à moins que nos gouvernants, certains de nos gouvernants, ne sont pas dans cette logique-là, de voir les valeurs partagées aux enfants. Ils font le contraire, ils disent la chose, mais ils font le contraire. Ou soit, il y en a qui veulent faire avancer les choses, il y a d'autres qui retroussent les manches et ramènent les choses en arrière. C'est le pays dans lequel nous sommes. C'est pourquoi j'ai donné juste l'exemple des bâtiments scolaires dont on a un code couleur. Maintenant, on se retrouve avec le bleu-blanc. Tout simplement que ça puisse
ça puisse frapper la psychologie des gens qui vont aller voter, de voter tel parti politique. Non, je vais finir.
Oui, rapidement.
Je vais finir.
Oui, allez-y, rapidement.
Je vais finir en disant que le ministère a fait cela, à mon sens, hein, pour que, à moyen et à long terme, ça puisse entrer dans l'habitude des parents. Je ne crois pas qu'on viendra faire sortir un enfant dans le parent au Bénin ou au Burkina qui lui a envoyé un cahier. Mais que les imprimeurs, que ceux-là qui vendent des cahiers puissent s'adapter à la nouvelle donne. Et que les enfants aussi puissent... moi, mon cahier n'est pas... Il n'y avait pas le drapeau sur mon cahier. Moi, si je veux le cahier... Que les enfants même arrivent à réclamer ça.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise. Oui, Magula. Alors, quand on suit ces réformes, hein, ces différentes réformes que le ministre Kokoroko est en train d'implémenter dans l'éducation, dans l'enseignement, on pourra dire que l'école de la République est en marche.
Non, je crois que tout le monde le sait déjà, hein, depuis 2020, que le ministre Kokoroko est arrivé au ministère en charge des enseignements primaires et secondaires. Très rapidement, il a imprimé sa marque, la marque qu'on lui connaissait déjà pour avoir métamorphosé complètement l'université, et ça, c'est des faits réels. Et vous avez vu, avec des réformes qu'il a enclenchées, n'est-ce pas, dans le secteur de l'éducation, beaucoup de choses se sont rentrées dans les normes. Ce qu'on voyait par le passé où un élève peut facilement porter la main sur un enseignant dans ce pays, et je crois que le ministre Kokoroko a arrêté tout ça. Et on a vu des cas de sanctions. Il y a des séries de sanctions qu'on a eu dans ce pays. Aujourd'hui, ça ne surprend plus personne. Maintenant, pour ce qui est justement de cet arrêté, on va dire interministériel, qui a été signé par trois ministres, je crois, en 2023, et qui oblige, n'est-ce pas, les opérateurs qui interviennent dans l'impression des cahiers et tout ça à tenir compte des emblèmes, des couleurs. Non, je crois que ça rentre dans le civisme, dans la pédagogie, des bonnes mœurs aux enfants, et surtout dans l'amour de la patrie, comme Ambroise a si bien le dit. Souvent, je crois que c'est là où il faut peut-être encourager, apprécier. Je fais un petit crochet chez nos amis de la Pulsia qui ont décidé, n'est-ce pas, de vouloir lutter contre la corruption en s'occupant beaucoup plus des enfants, parce qu'ils estiment que c'est les enfants qui façonnent le monde, voyez-vous. Et donc, si vous...
Et il faut les inculquer les bonnes valeurs.
Il faut leur inculquer les bonnes valeurs. Mmh. Je crois que c'est une bonne philosophie. Et ici, si vous et nous perdons les valeurs civiques, parce que justement, les réalités de la vie ont fait que parfois on sait que ce n'est pas bon, mais on le fait. Mais je crois que l'enfant, pendant qu'il est encore innocent, il faut profiter de ce moment-là pour inculquer les bonnes valeurs, l'amour de la nation et les valeurs civiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprécier, n'est-ce pas, cette dynamique-là. Mais pour ce qui est du reste, je crois que on gagnerait encore plus en donnant l'exemple nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ambroise a effleuré tantôt le sujet. Et c'est dans ce pays que le même ministère a sorti un code couleur pour ce qui est des bâtiments scolaires. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ce pays? C'est maintenant même que les gens accélèrent, n'est-ce pas, leur vitesse en badigeonnant les bâtiments scolaires en des couleurs qui sont rapprochables, n'est-ce pas, à un parti politique. Alors que un arrêté ministériel a droit de, comment on va le dire ça, à force de loi, n'est-ce pas?
Oui.
Et les marchés publics, en réalité, sont attribués, ils sont lancés par l'État et attribués aux entreprises. Et quand l'État dit que voilà les couleurs que moi je veux pour les bâtiments scolaires dans mon pays, moi je ne vois pas quel entrepreneur va gagner ce marché et dire que moi, je vais construire le bâtiment, certes, mais laissez-moi le sein de badigeonner aux couleurs que je veux. Ça voudrait dire que quelque part, le ministre Kokoroko et son ministère font ce qu'ils peuvent faire pour normaliser les choses parce qu'estimant que le milieu scolaire doit être apolitique. Et c'est vraiment ça. Mais on sent que quelque part, il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres forces qui agissent en dynamique contraire. Voyez-vous. Et vous vous rappelez que lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas...
Et là, est-ce qu'il n'avait pas le choix?
Normalement, il devrait agir, mais vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes. Voyez-vous, lorsque UNIR était en congrès à Accra, on a vu que il y a eu des élèves qui ont débarqué sur les lieux. Mais depuis lors, certains attendent...
Un tricot alors du parti.
Oui, des gens attendaient depuis lors une sortie du mini cocorico pour dire, mais diantre, quel est ce directeur d'école qui a pu habiller les élèves en t-shirt UNIR et leur demander d'aller, n'est-ce pas, ovationner des gens à l'esplanade du palais des congrès de Accra. Mais jusqu'à ce jour, silence radio. Et vous allez constater que même l'homme, depuis un moment, s'est un peu rétracté. Et quand on fait les choses comme ça, mais ça ne prend pas une même dynamique, ça ne prend pas la même allure qu'on voudrait. C'est pour ça.
Et ça n'a pas une valeur républicaine.
Absolument. Ça, on n'a pas besoin que nous, ici, dans ce studio, qu'on le dise aux gens. Quand vous demandez aux gens de faire une chose et vous-même faites le contraire, ça coupe la dynamique.
Merci. On va quitter le sujet.
Les commissariats de police aussi.
Oui, on va quitter le sujet.
S'il te plaît.
On va quitter le sujet.
Il faut arrêter ça.
Oui, d'accord. On quitte le sujet. Alors, il y a le journal Canal D qui nous donne notre prochain sujet. On va en parler rapidement dans quelques minutes, puisque le temps nous talonne. Le journal Canal D qui écrit « Présidence à vie, Paul Biya, Alassane Ouattara et 3 points de suspension, c'est fossile, qui refuse alors de partir. » Et le journal poursuit en écrivant « Quand le fauteuil présidentiel devient un trône des constitutions réécrites à la carte, une jeunesse étranglée par des vieux régimes, quand l'exemple vient d'ailleurs le cas Patrice Talon. » Alors, Ambrose, oui, nous avons appris avant-hier même d'ailleurs à travers une déclaration que Alassane Ouattara a annoncé sa candidature pour un 4e mandat. Est-ce que vous avez été surpris?
Oui et non. D'abord non, parce que nous avons affaire à un boulanger.
Et comment ça,
un boulanger? Vous êtes une fois allé dans une boulangerie, manière dont le pain est tourné là. C'est-à-dire, souvent, c'est pour ne pas dire que c'est un roublard. Un roublard, c'est celui qui vous tourne en bourrique, alors qu'il a dit une chose, il fait son contraire, c'est ça. Et il a fait, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Il ne tient jamais la parole. Le monsieur, les gens ne le connaissaient pas. Moi, j'ai eu à discuter il y a de cela 10 ans ou 12 ans avec une journaliste ivoirienne qui avait été amené à rester ici, vers la zone Baguida, et quand la crise avait sonné,
en 2011.
Une dame très belle que j'ai rencontrée, qui, oui, je l'ai appréciée à sa juste valeur, parce que je me dis que, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'amène ici? Elle m'a tout dit. Moi, je lui ai décrit la Côte d'Ivoire, je lui ai parlé de Gbagbo, elle m'a dit, mais tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais tu maîtrises la situation de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo avait quand même un pétrole qu'il vendait aux Français. Gbagbo avait un fonds de souveraineté de 80 milliards. Tout ça, je l'avais parce que moi, j'aime l'actualité internationale. Et elle est devenue une amie. Et quand je décrivais Alassane Ouattara, qui était, je lui disais que c'était un funeste, c'était un monsieur, un opportuniste, qui avait surfé sur la naïveté de Félix Oufou-Boigny pour se retrouver à un niveau où il ne devait pas être, même étant un haut cadre du FMI. Voilà la raison. Celui-là qui accusait Gbagbo de vouloir faire une chose est en train de le faire aujourd'hui. Alors que c'est la même chose qui avait amené la crise au temps d'un autre président farfelu, si tu le permets, je parle de Sarkozy, aujourd'hui qui devait être derrière les grilles pour au moins 100 ans. Et en plus, et que ce monsieur-là dise qu'il est encore candidat aujourd'hui, il a copié depuis le Togo. La référence est le Togo. Le Togo copie de mauvaises choses ailleurs. Et on copie aussi de mauvaises choses sur lui. Et Ouattara ne s'est pas levé un beau matin. Il a attendu le roi Paul Biya du Cameroun. Parce que là, nous sommes dans des royaumes, dans l'Afrique centrale. Hein. Il y a Obiang Nguema qui est dans ses 42e année. Il y a Paul Biya, il y a Sassou Nguesso. Et tout ça là, ça c'est un royaume. L'Afrique centrale, c'est un cas. Et donc, et maintenant, non, oui, parce que je me disais qu'il devait prendre de la hauteur. Il a fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Lui, au moins, il a construit des ponts.
C'est-à-dire les réalisations.
Il a construit, oui, des réalisations infrastructurelles, les échangeurs, les hôpitaux, les stades. Au moins 6 stades de niveau homologué FIFA qui l'a construit. Contrairement, comme nos amis, certains confrères font souvent la comparaison, nous aussi on va essayer de faire la comparaison. Contrairement au Togo, il n'y a rien de tout cela ici. Même chemin de fer, on n'en a pas. Pour dire que Ouattara veut embraser la Côte d'Ivoire. Et ça a déjà commencé par bouillonner dans les rues. Et face à lui, il y a plusieurs politiciens de niveau très élevé. Je parle de Gbagbo, je parle de Thiam, de PDCI, je parle de Soro, qui l'a aidé à prendre le pouvoir en 2011. Je me rappelle.
Oui, c'est vrai.
Depuis Boaké, avec l'appui des Français et des Nations Unies. C'est là où les Nations Unies ont fauté. Les Nations Unies se sont détruites en matière de légitimité. Et il y a aussi le général de la rue. Vous connaissez?
Oui, on connaît.
Qui aujourd'hui aussi a été écarté de la course. Mais on ne peut pas être gourmand à ce point. Si tu décides d'y aller, laisse les autres concourir avec toi et va voler. Comme Ouad l'a dit à nos amis ici. Que mais, ce que tu as fait en 2005, il y a eu des morts là. Mais replie-toi et reviens pour voler. Ouattara veut mourir dans la gourmandise. Avec son âge, il a pointé les 82. C'est pas normal.
Pour les 3 ans. 83 ans, c'est ça. Alors oui, Magola, comment vous analysez cette actualité?
Non, mais il faut dire que le contraire m'aurait étonné. Parce que quand vous voyez l'allure du monsieur depuis, ça fait 10 ans.
Et mais en tout et pour tout, il a justifié quand même sa
justifié
candidature.
Justifié quoi?
Il parle du terrorisme qui est
quel
là.
Quel terrorisme?
Et il parle également des enjeux économiques.
Quel enjeu? Il est né avec la Côte d'Ivoire. Mais il faut arrêter ses raisonnements, Pascal. En réalité, c'est un homme politique. Il peut dire tout ce qu'il veut. Parce que vous savez, la réalité, c'est que quand un homme, surtout un chef d'État, veut s'éterniser au pouvoir, on fait recours à des intellectuels pour faire du juridisme, pour expliquer ce pourquoi ils doivent être là. Mais je suis désolé, M. Alassane Ouattara n'est pas né avec la Côte d'Ivoire. Il va mourir, la Côte d'Ivoire va rester. Mais pourquoi il se prend pour un éternel ou un indispensable? C'est là le vrai problème. Il avait annoncé un discours en 2020 qu'il ne veut pas se retrouver président à l'âge de 90 ans. Mais là, il a 83 ans. Mais il tend vers ce qu'il ne voulait pas avoir comme âge en étant président de la République. L'homme dit, je veux me retirer pour me reposer auprès de mes petits-enfants. Il annonce son successeur qui, malheureusement, par concours de circonstances, décède. Et comme par enchantement, il revient. Comme s'il n'y a personne dans la maison, comme s'il n'a pas préparé sa succession. Et aujourd'hui, il revient encore. Vous savez, c'est Amadou Ampateba qui disait qu'en Afrique, quand une bibliothèque brûle, enfin, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison que, ben, aujourd'hui, nos vieillards n'ont plus de parole. Et les antipiques de Ouattara, de Biya et tout ça nous prouvent à suffisance que Pascal, toi et moi, on est jeunes, mais on est plus sages qu'eux. Pourquoi Obama a fait 10 ans et il est parti?
Mais est-ce que ce n'est pas des réalités alors du
François
pouvoir?
François Hollande en France, aussi quelle réalité? Est-ce qu'eux, ils ont deux têtes, nous, on a trois têtes ou quoi? Il n'y a que la couleur qui diffère quand même.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore...
François pouvoir. Hollande a jugé, vu l'écosystème politique français et tout ça, a fait un seul mandat. Mais pourquoi chez nous, on veut être si gourmand? Pourquoi? Et puis, on n'admet pas de la concurrence.
D'accord.
Ça, c'est une démocratie.
Non,
c'est
merci.
Pour ça qu'on doit féliciter Talon.
Merci, merci.
Talon beaucoup. Nous donne l'exemple palpable.
Merci, merci.
Qu'on peut être gentleman en politique.
D'accord, merci.
Tout ce que les autres font, c'est du haut-bas.
Merci beaucoup, Magola. Merci beaucoup, chers confrères. On va donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne. Nous allons leur donner la parole sur nos deux numéros, 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
Au haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume, deux ou trois pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07.
Ago, amanegarema. Ah, novi wezo e.
Cho, fika do vi oyio.
Uleti omene songwe nye siya. Nyematu fena o. Do vi gare ojo.
Kenu ka eva jore jio.
Edefuna munto. O nyanye do ofe le do koko po wana ome. Kena fato song.
Oh, o do ofe me gakpo mo. Ako dore kvada sina fato song wa. Nukata o.
Metso da selik balik begble. Si fia be do si me kola. Me we nuvo. Cho de nye woma ome. O de jesi wana siya. Le si me kaya. Wole woma ome jurum. O wanyanya nana. Na togbe de ha si kuwa. Maso maso fe nya ogbo. Ike nye akope fe do ofe fa loje. Esi anabe wo de nye do ofe. Le do koko ofe wana ome. Mi suro nucho nye vodada si amelo. Mi gagle doa fe rudo kule se o. Kure mi afe gome kwa kwa si oma kbolo mi ngogbo o. En kule akope la. Mi akpo ngogbe de de. Le nyate fe kule anikuare me.
Togo, prépare-toi à vivre l'inespéré. Une saison de gloire approche, une visitation divine descend sur la nation. Du 5 au 6 août 2025, à partir de 18h, l'esplanade Togo 2000 devient le lieu de rendez-vous avec la puissance de Dieu. Croisade de réveil et de miracle avec l'apôtre Yves Castanet, un homme envoyé pour le réveil des nations, porteur de feu, de guérison, de délivrance et de miracles. Deux jours intenses de louanges, de prières, de révélations et de percées spirituelles. Viens avec ta foi, repars avec ton miracle. Esplanade Togo 2000, 5 et 6 août 2025, 18h précises. Pour plus d'informations, plus 228 93 33 22 33. Entrée libre. Viens et vois ce que Dieu a préparé pour toi. Togo, l'heure du réveil a sonné.
C'est les grandes vacances et De Gathering revient pour une 5e édition encore plus fun. Rendez-vous les 8, 9 et 10 août à l'Hôtel Les Bénets pour 3 jours de vibe africaine. Au programme, expo-vente, gastronomie, mode, art, animation et une ambiance de folie assurée par les meilleurs DJ de la capitale. Tu es entrepreneur, artisan, créateur, c'est le moment de briller. Réserve ton stand maintenant et connecte-toi à un public large, curieux et passionné. Viens découvrir l'Afrique dans toute sa grandeur, ses saveurs, ses couleurs et sa créativité. Retiens la date, c'est du 8 au 10 août 2025 à l'Hôtel Les Bénets, en face de la plage. Infoline et réservation, plus 228 93 94 15 65 ou plus 228 92 99 44 85. The Gathering, 5e édition, le meilleur événement de l'été.
Vous aimez les plats d'antan? Vous rêvez des saveurs de votre enfance? Ou vous êtes tout simplement passionné par la cuisine africaine? Le rendez-vous est pris! Du 6 au 10 août 2025, cap sur Canal Olympia Godopé pour la 4e édition du festival La Marmite, FESMA. Un voyage culinaire inoubliable entre tradition et créativité. Foire gourmande, ateliers et concours de cuisine, table ronde, concert live, sans oublier la nuit des tables africaines. Plus de 50 000 visiteurs attendus. Et vous ? FISMA, c'est aussi un carrefour d'opportunités pour les artisans, producteurs, transformateurs et distributeurs. Un véritable coup de projecteur sur le consommé local. Info 99 04 20 09 79 94 77 91. Du 6 au 10 août à
Canal Olympia Godoté. FESMA 2025, de la ferme à l'assiette.
Le Petit Bruxelles, avec son dîner blanc de blanc annuel, un événement incontournable et attendu dans toute la sous-région et de notoriété. Se déroule ce 9 août 2025 au Togo à partir de 19h. Soirée VIP incontournable, service et dîner exceptionnel. Pour ses 5 ans, Lomé verra en grand avec un live show inédit. La récompense de la reine de la soirée à vivre à tout prix. Attention, after party discothèque à partir de 23h. Plus d'infos, plus 228 70 50 50 50. Réservation, plus 228 70 44 33 30.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous, 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne, allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est Frédéric.
Ah, Frédéric. Oui, allez-y.
Et juste, je vais peut-être savoir, mon prochain frère, de parler concernant la Côte d'Ivoire, bah, du Diwabakona aussi. Hein. Parce que ce sont les gens qui ne réfléchissent pas. Moi, je le dis.
Non, non, on ne va pas dire quand même. Oui, mais non, non, non. Écoutez, Frédéric. Frédéric, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Non, non, s'il vous plaît.
Bon, s'il s'agit d'un terrorisme, il n'a qu'à confier le pouvoir à un général. Le gouvernement le fait tout pour combattre le terrorisme. Il ne faut pas nous blâmer dans les histoires que c'est comme ça, comme ça. Il veut mourir au pouvoir, il n'a qu'à mourir au pouvoir. Un jour, il va quitter le pouvoir sans le pouvoir le quitter. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Frédéric, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez nous écrire aussi hein, sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Monsieur Prosper Agbosime.
Monsieur Prosper Agbosime, veuillez parler un peu plus fort.
C'est ma première fois quand même.
D'accord.
C'est ma première fois de vous appeler.
D'accord, Prosper, allez-y.
Je félicite le journaliste qui vient de faire l'analyse concernant la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est les Togolais que les Ivoiriens imitent. Sinon, comment est-ce qu'on peut dire un président qui décide, qui dit qu'il ne va pas encore aller au 4e mandat? Mais qu'est-ce qu'il cherche? La sécurité, c'est lui qui est Dieu de la Côte d'Ivoire. Mais s'il part, les autres qui viendront là, ils vont gérer le pays. C'est vrai, il a travaillé. Mais il cède la place à quelqu'un qui va aussi agir pour se concurrencer. Mais ce monde des présidents de notre Afrique là, nous sommes vraiment fatigués quoi. Franchement, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Est-ce qu'il y a une école de la présidence quelque part? Alors tout le monde ira se former et être président. Tout ça, M. Pascal.
Oui, Prosper.
Vraiment,
merci.
Nous sommes dépassés avec la souffrance, la misère des Africains, mais ils continuent d'être toujours sous le pouvoir. Par exemple, au Cameroun. Il faut bien être fatigué. Mais ils veulent quoi encore? Ils ne cèdent pas la place. Il n'y a pas quelqu'un donc, qui est capable de gérer le pays, mais il n'a qu'à former quelqu'un.
D'accord.
Regardez notre cas au Togo ici, s'il vous plaît, monsieur Pascal. Nous mourons de faim. Nous sommes fatigués. Maintenant, les attestations des centres montent à 1000 francs au Togo. Où est l'argent? Merci, bonne émission.
Merci, Prosper, pour votre intervention 90 86 35 35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, Gérard Serassier.
Ah, Gérard, allez-y.
Oui, je voudrais venir sur le problème de vente de sang carré. Là.
Mmh.
Il faut aller vers l'interdiction parce que moi, d'abord, ça étonne que quelque chose comme ça se vend sur une place publique au marché. Bon, partant de là, il faut qu'on dise aux femmes togolaises de protéger leur nourriture. Parce que vous verrez comme ça des gens qui vendent du poisson fumé, de la boisson, des jus, et qui ne couvrent pas. Ça peut se passer avec un jus d'Adidoyo ou de Bifap. la même chose peut se passer. Donc, il faut dire aux gens de protéger leur nourriture, comme on le fait au Ghana, pour arrêter, pour que de ces choses-là ne se répètent, quoi. Et pour le cas typique des sans-cahiers, c'est aussi quelque chose de trop, quoi. Ça se fait à la maison, mais amener du sang, lorsqu'on va vous amener du sang humain, vous ne saurez pas, quoi. Il faut arrêter ça.
Mmh, d'accord. Merci beaucoup, Gérard. Et il y a des auditeurs quand même qui nous écrivent, hein, également, qui nous écrivent, j'allais dire, sur notre numéro WhatsApp. Allô?
Oui, bonjour, grand frère.
Bonjour, Nestor. J'espère que vous allez bien.
Non, c'est Benoît Dagoué.
Ah, c'est plutôt Benoît. Je n'ai pas bien reconnu la voix. Allez-y maintenant.
Oui, vous avez raison. Bon, moi, on dit que le gouvernement gère le gouvernement démissionnaire gère les affaires courantes. Qu'est-ce qu'ils appellent pas les affaires courantes? Et le ministre, M. Kokoroko, vient de dire qu'il y a 35 croix. Maintenant, ce n'est plus 1000. C'est 35. On parle trop, on fait des annonces trop au Togo. Il faut des faits. C'est après avoir conçu ces écoles-là et on monte ces écoles et ce sujet.
Allô, Benoît. Allô, Benoît.
Oui.
Concrètement, vous parlez de quoi? 35 quoi?
Pardon?
Vous parlez de quoi? Le ministre a annoncé quoi?
Vous avez dit dans votre sujet que le ministre Kokoroko a annoncé quoi? 35 sujets.
Non, c'est plutôt 30, hein, 30 sujets.
Oui, 30. Sujets, oui. Et annoncer là, c'est quoi? Est-ce que c'est une affaire courante? Et si une affaire courante, quelle affaire gère Madame Dubé? Ou bien c'est à cause de ça que le président a annoncé que c'est lui qui va signer les autorisations de sortie des ministres? Ça fait là 3 mois, on n'a pas le temps au gouvernement. Merci et bonne journée.
Merci Benoît et bonne journée à vous aussi. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Mauto.
Ah, monsieur Mauto, allez-y.
Salut le plateau. Le problème du transhumant, le numéro vert et la finalité, qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'au Togo, hein, on ne fait que dépasser les problèmes. Au lieu de résoudre les problèmes, on ne fait que dépasser les problèmes. C'est un problème de la justice. Tout le monde doit travailler pour construire le pays. La ministère travaille et puis le lever s'en va dévaster l'autre partie. C'est bon? C'est un problème de la justice. À qui appartient les deux? Moi, j'en connais beaucoup. Ce sont les barons qui sont des grands éleveurs au Togo ici. Ils n'ont qu'à mettre la justice à sa place. Et si le problème est réglé, pour Ouattara, le truc aussi, hein, nous avons les dirigeants africains qui ont accepté la démocratie, hein, mais ils ne sont pas les démocrates. Merci et bonne émission.
Merci à vous aussi, Monsieur Mokto, pour votre intervention. Il y a quelqu'un qui nous écrit, bien sûr. Bonjour Pascal. Et si Ouattara mourait demain avant la présidentielle, à Côte d'Ivoire va disparaître sur le globe terrestre? C'est une question, bien sûr, qu'il se pose. 90-86-35-35. Allô?
Bonjour.
Oui, Basile, bonjour. J'espère que vous allez bien.
Honnêtement.
D'accord, allez-y.
Non, par exemple... Le problème de Ouattara dont vous parlez, c'est au Togo. Il y a presque tout, c'est au Togo. Quand on prend l'homme de Guinée équatoriale, Cameroun, tout ça là, ils n'ont pas encore fait 60 ans. Hein. Mais nous, on est à 58. Et voilà. C'est le problème de ce que tu as fait avant d'accéder au pouvoir. C'est ça le problème. Comment quitter? Ça devient un problème très sérieux. Tu ne peux pas partir. Tu vas partir pour aller où? On préfère mourir là-bas, mourir de sa propre, de sa belle mort. C'est de ça qu'il s'agit, sinon. Ouattara, il a quand même fait quelque chose en Côte d'Ivoire, il peut partir allègrement, mais il y a 3000 morts qui sont dos. Avec son camarade de Bagbo, on a dit que c'est pas Bagbo. Est-ce que c'est lui? Si c'est pas l'autre, c'est sûrement lui. Hein? Donc il ne peut pas partir. Voilà, chez Messi, vous savez combien on a marché pour venir. On ne peut pas partir. D'accord. Voilà, vous savez ça. Et puis, si on fait quelque chose pour que les gens qui vivent dans ce pays
arrive à respirer, c'est bon. Pour notre cas, par exemple, quand on n'arrive même pas à respirer, on n'arrive pas à manger. Et quand on parle d'autres parce qu'on appelle à la révolte, le président même a dit à Karab, vous n'arrivez pas à danser parce que ou bien vous avez faim, ou vous allez. Ça là, il appelle à la révolte contre qui alors?
D'accord, merci beaucoup, Basile. Basile, merci. Oui, merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Basile, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Bonjour, Pascal, et bonjour, le plateau. Concernant les réformes du ministre, Cocoroco, c'est une manière d'étouffer, l'économie de nos femmes et celles qui croupissent depuis dans l'incendie des marchés. Que Dieu bénisse le Togo. C'est Kokou qui nous écrit depuis Adido Gomé. C'est encore un autre message. Bonjour, Canal FM. Mais les Togolais parlent avec ardeur du cas de Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais ici au Togo, c'est le pire. On n'est pas loin du royaume. C'est bien sûr un auditeur, bien sûr, qui a écrit cela. Il n'a pas signé le message. Salut Pascal. Je dis bravo à Cocoroco. Et je prie qu'après l'éducation, on le nomme à la santé où le désordre est lamentable, c'est Jafala Dadewi qui nous écrit. Alors, nous revenons en plateau, c'est confrère, pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Embrasse, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité, c'est le principe à l'heure de l'émission. Votre réaction?
Oui, bon, je crois que tous les sujets ont été abordés par les différents auditeurs, que ce soit le cas Ouattara, le cas des bouillons de Pessou et de la question de la transhumance. Et surtout la question du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Dans tout ce lot-là, j'estime que chacun a son avis sur les sujets, mais d'abord sur l'enseignement primaire et secondaire, je crois que c'est un chemin que nous sommes en train de faire. Et l'enseignement ne doit pas être laissé et comme ça. L'enseignement doit avoir un recadrage, franchement, pour pouvoir assurer l'avenir éducatif de nos enfants. Et, vous savez, le pays est devenu un pays où tout le monde fait ce qu'il veut, mais si à un moment donné, quelqu'un est venu pour assainir le milieu, il n'y a pas eu de grève cette année, même l'année dernière, il n'y a pas eu de grève. C'est un bon signe que nos enfants ont bien commencé, ils ont fini l'année, ils vont encore bientôt reprendre. Nous devons saluer ça. Maintenant, quant à l'histoire des fournitures, des bâtiments, d'abord, les 30 constructions dont on parle, c'est des réhabilitations. C'est des CEG ou lycées qui ont été laissés parce que pas d'effectuosité ou par abandon. Donc, il faut les réhabiliter. Que les gens ne se trompent pas aussi que la question du foncier se pose avec acuité même dans les domaines publics. Donc, Cocoroco a aussi clôturé beaucoup d'établissements scolaires. Moi, j'étais très content. Que ce soit à Mandaromé, que ce soit à... oui, partout. Il reste certains lycées, certains CEG. Parce que les autochtones font souvent l'intrusion dans le domaine public, dans le domaine des réserves administratives, pour s'en approprier. Comme c'est leur habitude. Et c'est des gens que j'aurais toujours aimé qu'on envoie en prison pour 50 ans. Donc, aujourd'hui, pour ce qui est des bouillons, on a dit ce qui est du côté du ministère de la Santé qui a fait un bon travail.
D'accord.
Et ensuite, pour les dinosaures qui ne veulent pas quitter les rois, je crois que Dieu, il est bon. Dieu même va les enlever le moment venu.
D'accord.
Et la Côte d'Ivoire va se retrouver, le Togo aussi va se retrouver.
D'accord, merci. Oui, Ambrose, Magula.
Non, je crois que moi, je vais peut-être m'apesantir, sinon chuter sur le sujet lié, n'est-ce pas, à ces fossiles, comme notre ami Jean et sa rédaction l'ont titré dans leur journal, c'est que en réalité, Canal D a parlé de ces fossiles qui ne veulent pas quitter.
Oui, c'est ce que le Canal D a écrit, présidence à vie, Paul Biya, Alassane Ouattara, etc. Ces fossiles qui refusent de partir.
Voilà. Donc en fait, c'est pour dire que aujourd'hui, je suis convaincu que l'Afrique, c'est vrai qu'on se démène tant soit peu, mais on est loin d'être en démocratie. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que vous voyez... Je ne sais même pas dans quoi on est, honnêtement.
En démocratie.
Honnêtement, Pascal, ce que je dis, je suis sérieux. Et ce qui fait encore plus mal, c'est qu'on peut beau accuser les chefs d'État en personne, mais ce n'est pas eux qui toilettent les constitutions. Ils ont l'idée, la volonté, mais ils mettent en branle leur machine d'intellectuels, de juristes. C'est pourquoi moi, c'est ma lecture personnelle, nos amis juristes là, je ne les aime pas trop. Parce que c'est eux qui sont capables de te dire que l'habit que tu as porté en réalité, c'est du blanc. Alors que c'est du noir.
Pas tout le monde.
Voyez-vous, pas tout le monde, je sais. Mais en réalité, il y en a de ces intellectuels qui en réalité sont les vrais cancers de la société africaine. Et on peut beau accuser les chefs d'État, mais eux aussi ils font partie. Aujourd'hui, je jette encore des fleurs au président Talon. Il va partir après demain. Mais le Bénin...
Et la martelée même d'ailleurs.
Le Bénin va toujours exister. Pourquoi nous, on ne peut pas copier ces exemples-là? Après, on va dire que notre histoire n'est pas la même que l'histoire de l'Occident.
C'est la comparaison-là qui m'énerve.
Voilà. Mais le Bénin, le Togo, c'est des pays frères, c'est les mêmes pays presque. Mais pourquoi eux le font, nous, on ne peut pas le faire?
Merci beaucoup, Magloa. Merci, merci, Ambroise. Je lis cette réaction de cet auditeur rapidement avant que nous ne terminions cette émission. Bonjour, le plateau. Je pense que la candidature d'Alassane Ouattara étant actée au dernier congrès du RHDP, il va de soi qu'il n'y renonce jamais. Donc, son fameux discours d'avant-hier n'a surpris personne, car comme le dit un adage, je cite, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou sous le ciel, j'allais dire, les vérités anciennes s'expriment en de mots nouveaux. Avançons seulement, l'histoire nous en dira, c'est Adé qui nous écrit depuis Adakpa. » Mais merci beaucoup, chers confrères. Ambroise Kondro, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians. Merci, Magloa Kinviteko, directeur de publication du journal Le Flambeau des Démocrates. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Thomas Itek aussi de la TV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain, vendredi, pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Une essence, un cri. Une douleur, un bruit, un quatre et tout.